Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous le savez, samedi, il y a eu une alerte d'urgence qui a été envoyée sur la colline parlementaire à Ottawa. Donc ça a été le branle-bas de combat pendant un bon petit moment. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que l'alerte avait été lancée en anglais pour rejoindre tous les parlementaires qui auraient pu se retrouver sur les lieux en leur disant d'évacuer, de se mettre à l'abri, etc. Le message a été envoyé en anglais à 12h58. Et savez-vous quoi? Il a été envoyé en français 8 minutes plus tard. Vous pouvez me dire, c'est pas grave, tout le monde est bilingue sur la colline à Ottawa. Mais vous trouvez pas qu'il y a quand même une symbolique là-dedans? L'anglais, c'est important. Il faut rejoindre les gens de toute urgence pour leur dire de se mettre à l'abri. Il y a peut-être une situation conflictuelle. Il y a peut-être un attentat qui est en train de se préparer. Il faut évacuer vite, vite, vite. Please get out of the parliament. Mais 8 minutes plus tard, on vous prévient en français. Vous trouvez pas ça inacceptable? Vous trouvez pas que c'est un signe, encore une fois, que dans ce beau et grand pays, le plus meilleur au monde, qu'est le Canada, le français arrive toujours en deuxième, et plus précisément, 8 minutes plus tard. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai poussé un exaspéré « ben voyons donc ».
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Tous les mercredis, tous les vendredis, on a la chance d'avoir avec nous Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Bonjour Karine.
Bonjour Sophie.
Tu voulais revenir sur cette histoire absolument sordide de viol collectif dans le domaine du hockey. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. C'est vraiment... Plus on en apprend sur cette histoire-là, plus on se rend compte qu'il y a des côtés dégueulasses, évidemment, dans l'acte même, mais dans toute cette espèce d'omerta qui tourne autour de cette histoire-là.
Tellement. Moi, ça m'a tellement dégoûtée. Bon, comme tu dis, le geste en tant que tel est épouvantable. On parle de viol collectif qui a eu lieu en 2018. La plaignante, c'est une jeune femme qui alléguait avoir été agressée sexuellement par 8 joueurs d'équipe Canada au cours d'un gala. Et puis, dans le cadre d'un gala, en fait, là. Et ce qu'on a appris au cours des dernières semaines, c'est qu'il y avait eu un règlement hors cours. Ouais. Et que tout ça, finalement, a été passé sous silence. Et je me demande si c'est pas ça qui m'écœure encore plus là, dans tout ça. C'est cette espèce de... Je sais pas, de tolérance, une forme de tolérance, je trouve, pour l'agression sexuelle. On s'est plus soucié du côté de Hockey Canada, selon moi, là, de passer tout ça sous silence pour pas éclabousser l'organisation et les joueurs. Alors que, je sais pas pour toi, mais moi, je considère que ce genre de geste-là devrait être puni, qu'on aurait dû aller jusqu'au bout. Là, on parle de mineurs, donc on comprend qu'on n'a pas identifié les 8 joueurs, ouais. Mais on sait que certains évoluent dans la Ligue nationale. Alors, imagine-toi, ils continuent leur carrière sans problème, sans être achalés. Je trouve ça vraiment là, épouvantable.
Et ce qu'il faut se dire, Karine, et c'est peut-être ça là que le bât blesse le plus, c'est que si ces jeunes-là avaient été autre chose que des athlètes, là, mettons que c'est des jeunes qui traînent dans la rue puis qui n'ont pas fini leur secondaire, Ben, je veux dire, c'est un viol collectif, ces gens-là, c'est devant la justice qu'ils auraient été traduits. Ça aurait pas été une entente hors cours, ça aurait été des poursuites aux criminels. Leur carrière, leur vie aurait été détruite. Ils se retrouveraient en ce moment derrière les barreaux. Ben là, c'est du sportif. C'est du sportif, on leur pardonne, entre guillemets, évidemment. Et le fait que le règlement... donc, on parle d'un versement quand même de 3,5 millions. Et c'est pour ça que la ministre du Sport est si fâchée de ça. Dans quelle mesure il y a des fonds publics qui ont été versés pour, finalement, je veux pas dire acheter le silence, mais compenser une victime? Je veux dire, moi, je veux pas que mon argent serve à payer ça. Il faut que ces gens-là soient traduits devant la justice.
Ah, absolument. Puis c'est ça, les jeunes qui auraient été pris dans un autre cadre que celui-là n'auraient pas une organisation riche pour les soutenir derrière pour aller faire ce règlement-là. Puis tu sais, aussi, il y a un autre aspect, c'est que ces joueurs-là, dans les villes, dans les régions où ils évoluent, ce sont souvent des modèles en région. Là, tu sais, ce sont des vedettes.
Tu as tout à fait raison.
Ce sont des modèles pour les jeunes. Puis là, ben, alors qu'ils auraient commis des gestes comme ça, ils vont pouvoir continuer leur carrière, puis les gens savent même pas c'est qui. Tu sais, dans des cas de meurtre, des fois, on fait des procès devant un tribunal pour adultes, 26 ans, 17 ans.
Oui.
Dans ce cas-là, je me demande, tu sais, c'est quoi, c'est comme moins grave une agression sexuelle. On parle d'un viol collectif, là. C'est pas une mince affaire, là. Tu sais, dans le cas de j'oublie son nom, Logan.
Maillot.
Il avait été repêché par Logan Maillot, merci.
Sophie. Voilà. Il avait je connais rien en hockey. Je connais rien en hockey, mais ce nom-là m'était resté en tête.
Oui, c'est ça. C'était pas si mal. Alors, il avait été repêché par le Canadien. Bon, il était mineur au moment des faits. On parle pas d'un viol collectif du tout. On parle quand même d'un geste grave, là, de photos, d'une fellation qu'il avait reçue, qu'il avait partagé les photos. Et ça s'était passé en Suède, où la réglementation, les lois sont moins sévères pour protéger les mineurs, et ça avait été diffusé, donc divulgué, donc son nom avait circulé. Là, dans ce cas-ci, ben ils sont protégés en plus parce que c'est des mineurs, donc on sait pas de qui il s'agit. Et puis tu sais, on parlait des fonds publics, là, puis là, ben en fait, ça semble être le souci majeur d'Hockey Canada, là, d'aller expliquer devant, parce qu'ils vont devoir aller s'expliquer. C'est pour ça que tu as rebondi dans l'actualité devant le comité permanent du patrimoine canadien à la Chambre des communes à Ottawa. Et puis là, ben, leur souci, ça semble être d'affirmer là, que sans l'ombre d'un doute, il n'y a pas de fonds publics qui ont été utilisés pour ça. Mais tu sais, la ministre Pascale Saint-Onge disait aussi que ce qui était préoccupant dans tout ça, c'est que c'est l'autre chose que les Canadiens veulent savoir, c'est qu'elle disait, c'est quand même une organisation sportive. Aussi importante au Canada en faire en sorte que les joueurs impliqués ne sont pas imputables de leurs actions.
Ben voilà. C'est absolument hallucinant. Et surtout, tu sais, on parle beaucoup de, bon, tu en as parlé, de à quel point ces jeunes-là, dans leur communauté respective, sont des modèles. Et c'est un modèle auquel on aspire. Et en disant, bon, on ferme les yeux, mais on balaie ça sous le tapis, on verse des sous pour que ça ne sorte pas sur la place publique, pour compenser la victime, en faisant tout ça, en n'en parlant pas, parce que, ce qu'on fait, c'est qu'on banalise. On banalise. Le message qu'on envoie, clairement, c'est si vous êtes un sportif, vous êtes dans une classe à part, il y a des choses que vous pouvez faire que le commun des mortels peut pas faire, et on dit aussi, on envoie le message à la société, aux femmes, ben, vous faites violer, ben, faites attention par qui vous faites violer. Si vous faites violer par un gars au coin de la rue, ce gars-là va peut-être aller en prison, mais si vous faites violer par quelqu'un qui a une organisation derrière lui, ben, ils vont juste payer, puis ils vont peut-être récidiver.
Puis les joueurs, ben absolument, là, absolument. Puis les joueurs de Hockey Canada, les dirigeants de Hockey Canada, excuse-moi, là, ils devraient aussi, ils auraient dû se dire... Ah, ça m'écœure, ce genre de geste-là, ça n'a aucun bon sens. Non, je regrette, les gars, là, il n'y en aura pas de règlement en cours, vous allez faire face à la justice, parce que ces valeurs-là, ces gestes-là, on n'en veut pas dans notre ligue, on n'en veut pas chez Hockey Canada, mais c'est pas ça du tout qu'on voit, là. Ça veut dire qu'il y a une forme de tolérance, là. Alors, quel message ça envoie, comme tu dis? au niveau des valeurs qui sont véhiculées dans cette organisation-là, au niveau de ces modèles-là, c'est très, très, très questionnant. C'est clair que moi, je vais suivre ça, puis je vais écouter ce qu'ils vont venir dire, mais je suis pas certaine qu'ils vont en sortir plus glorieux, là.
Ouais. Tu sais, il y a une expression qu'utilisent beaucoup certaines féministes, et habituellement, j'ai beaucoup de problèmes avec cette expression-là, c'est l'expression « culture du viol ». On dit que règne au Québec, règne au Canada, une culture du viol. Moi, je me suis toujours opposée à cette expression-là, parce que pour moi, culture du viol, ça veut dire que dans tous les pores de la peau de la société circule cette banalisation-là. Or, au contraire, moi, je trouve que quand il y a, par exemple, quelque chose comme ce qui vient de se passer dans le domaine du hockey junior, au contraire, la société civile se soulève et se scandalise. Ça va des ministres aux commentateurs. Tout le monde se soulève contre ça. Alors que dans certains pays, ben, toute la société banalise le viol. Et je trouve que oui, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est scandaleux. Mais est-ce qu'on peut arrêter de parler de culture du viol au Québec, au Canada? Parce que chaque fois qu'on apprend ce genre d'information-là, tout le monde se scandalise. Tout le monde trouve ça scandaleux.
Ça, t'as raison, mais là, il faudrait passer une autre étape. Il faudrait passer à l'étape où il n'y en a plus de genre de règlement hors cours comme ça, où les gestes ne sont tout simplement plus tolérés et où on se dit, ben, genre de joueurs-là, on n'en veut pas dans notre ligue. Tu sais, la Ligue nationale les a après tout recrutés. Ils vont évoluer à gros salaires. Ils vont continuer leur carrière alors que la victime, elle a eu des millions, mais ça arrange rien là à ce qu'elle a vécu, okay. Le traumatisme épouvantable qu'elle a vécu. Et puis non, c'est ça. Je pense que moi j'ai hâte que dans notre société, je sais pas si je vais le vivre là, mais que ces gestes-là ne soient tout simplement plus tolérés. Puis là, je sens vraiment qu'il y a eu une tolérance inacceptable.
Ouais. Est-ce qu'on peut finir ce sujet-là, clore ce sujet-là, juste avec une question? Et ce n'est pas une question empreinte de jugement, c'est une question qui, je pense, est légitime. Pourquoi la victime n'est pas allée porter plainte à la police? Parce que si ça avait été le cas, donc ce serait une poursuite au criminel et non pas au civil, à ce moment-là, les jeunes en question seraient passibles d'une peine de prison. Donc, la question se pose quand même. Une poursuite au civil, d'accord, c'est intéressant, parce qu'en effet, il y a une compensation, il y a un blâme, il y a, bon, tout ça. Mais pourquoi il n'y a pas eu la deuxième étape, qui pourrait, dans certains cas, même être la première étape, qui est plainte à la police, enquête de la police, plainte au DPCP, accusation, procès, jugement, condamnation? Je pense qu'il faut poser la question, Karine.
Oui, puis il faut se demander pourquoi les victimes souvent vont hésiter à le faire ou le feront pas.
Tout à fait.
Il y a tout un contexte. Oui, mais on essaie d'améliorer les choses. Là. On le voit là au Québec, on crée des tribunaux spéciaux et tout, mais je pense que c'est pas encore mis en place, c'est pas encore bien connu non plus. Bon, puis il faut voir ailleurs au pays là, mais ça c'est certain qu'il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça.
Ouais. Le deuxième sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui, ce sont les armes à feu. Donc, la presse nous apprend donc la violence armée en hausse partout au Québec. Ça provoque quand même une réflexion de se demander pourquoi, en effet, il y en a autant. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben moi, je remarque là, pour être chroniqueuse qui reçoit des messages parfois très agressifs et violents, j'en ai partagé d'ailleurs hier, que depuis la pandémie, là, ça s'est vraiment envenimé. Là. Les gens, on dirait que non pas les gens, mais des gens ne parviennent plus à contenir leur frustration, sont impulsifs et réagissent de manière inacceptable. Et je me dis, quand ces gens-là se retrouvent à posséder des armes à feu, ben je peux comprendre que ça peut dégénérer là, puis qu'on voit encore plus de cas. Alors, puis c'est un peu l'explication qui est amenée dans la presse là, aussi. Une des explications, là, il n'y a pas seulement celle-là. Je pense qu'il y a aussi une banalisation des armes à feu, de leur usage. Puis ça, les policiers vont le dire souvent, puis ils essaient de sensibiliser la population par rapport à ça. Mais je, par contre, je te rejoins là, quand tu dis que bon, il y a des, t'écrivais ce matin là, qu'il y a des artistes aux États-Unis qui disent que il faut que les producteurs fassent attention à l'utilisation des armes à feu dans les au cinéma, qu'on en voit trop et tout. Mais moi, je suis loin d'être convaincue que c'est la cause là, de l'augmentation un peu partout. Là.
Ben c'est sûr, parce que dans le texte de la presse, il y a quelqu'un qui dit « On a constaté au cours des années une certaine banalisation de l'arme dans le quotidien. Elle est utilisée dans n'importe quelle situation, prestations musicales, des vidéos, des émissions à la télé. » Ben c'est parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que quelqu'un voit un fusil quand il regarde la télé ou qu'il regarde une vidéo d'un rappeur. Le problème, c'est si, après avoir regardé cette vidéo, après avoir vu cette émission ou après être allé... c'était un spectacle où il y avait des fusils. C'est si tu vas au coin de la rue et que c'est facile pour toi de te procurer une arme, il est là le problème. Je dis pas que les émissions de télé ne font pas aussi partie du problème, mais c'est pas la première chose qu'il faut régler. La première chose qu'il faut régler, c'est l'accès aux armes. Puis aux États-Unis, c'est encore plus frappant. C'est ça le problème. Donc je trouve qu'on s'attaque au mauvais problème.
Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, bon, tu sais, il peut y avoir toutes sortes de raisons aussi. Là, tu sais, moi, tu parlais du film Le Parrain dans ta chronique.
Oui.
Moi, c'est un film que j'adore. C'est une série que j'ai écoutée, je sais pas combien de fois. Puis, je veux dire, moi, je suis pas plus violente, puis j'utilise pas d'armes à feu, puis j'aime pas les armes à feu, puis etc., etc. Mais il y a peut-être un problème aussi avec l'âge à laquelle les enfants ont accès à certains films. Tu sais, des fois, on va au cinéma, puis c'est un film super épeurant, super violent. Tu regardes, puis il y a une famille avec des petits enfants à côté, puis tu te dis, non, mais c'est quel manque de jugement, là. Tu sais, il y a peut-être plein d'autres facteurs aussi, les jeux vidéo. Dans un film, c'est pas l'acteur en tant que tel. Dans un jeu vidéo, ben si tu passes ta journée à tuer des gens, tu sais, dans le procès du Vieux-Québec, là,
oui.
Ça a été soulevé que lui, il passait ses journées à jouer à des jeux vidéo violents. Bon, on s'entend que ça conduit pas la grande majorité des gens à aller faire des tueries ou à tuer des gens ou à utiliser des armes à feu pour commettre des gestes de violence. Mais bon, il y a peut-être des questions à se poser à ce niveau-là aussi, là. C'est peut-être que chez des gens un peu plus dérangés ou qui ont de la misère à contrôler leur frustration, ça peut réveiller certaines pulsions. Mais moi, je trouve qu'il y a une différence aussi entre les armes à feu puis entre les jeux vidéo puis le cinéma, où est-ce que là, le cinéma, c'est de la fiction puis on est spectateur.
Oui, oui, tout à fait. Mais t'as sûrement connu ça quand on était jeune. À un moment donné, il y avait des gens qui disaient, les films de Superman, c'est dangereux parce qu'il y a un petit garçon qui s'était mis un costume de Superman puis il pensait qu'il allait voler puis il s'est jeté du haut du quatrième étage puis il est mort. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a un enfant qui tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va pas mettre non plus un avertissement au début de chaque film en disant « ceci est une fiction, ça existe pas, des hommes qui sont aussi des chauves-souris, Spider-Man, non, c'est pas possible, quelqu'un qui a été piqué par une araignée et qui réussit à avoir un liquide qui sort de son poignet qui lui permet de sauter d'un building à l'autre. » Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas, le monde du cinéma, et c'est une fiction, tu peux pas constamment rappeler aux gens que c'est une fiction, et surtout si on commence, comme le suggèrent les 200 signataires de la lettre aux États-Unis, si on commence à dire aux scénaristes, aux producteurs, voici ce que vous devriez mettre, voici ce que vous devriez pas mettre, après, ça va être quoi, là? L'exemple que je donnais dans mon article, c'est si il y a une épidémie d'obésité aux États-Unis, est-ce qu'on va commencer à dire dans les films, ce serait une meilleure idée que les gens mangent de la laitue au lieu de manger des frites parce que ça donne un mauvais exemple? Tu sais, à un moment donné, là, foutez-nous donc la paix quand on va au cinéma.
C'est vrai, hein? On n'a plus beaucoup de refuges où est-ce qu'on n'est pas contrôlé, où il n'y a pas.
C'est vrai!
Ça me fait penser, Mathieu Bocoté ce matin écrit sur le film Top Gun, ça n'a pas de lien avec les armes à feu, mais tu sais, il dit on croit plus à l'aventure, on préfère la vie ouatée, on s'assiduit de prudence parce qu'on veut pas déplaire aux censeurs. C'est un peu ça, là, tu sais. Est-ce qu'on peut avoir la paix, là, à certains égards, puis. Pas penser que tout est une cause dans des gestes de violence. Je pense que les causes de tout ça sont ailleurs, franchement. Et puis dans l'accessibilité,
absolument.
Que ce soit des armes légales ou illégales, là, dans le cas du Québec et du Canada, ben je pense qu'elle est là, la problématique, bien plus qu'au cinéma. Là.
Moi, je absolument.
Suis tout à fait d'accord avec toi.
Remettons nos priorités à la bonne place. Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci, puis on se reparle vendredi pour notre dernière chronique de la saison.
Merci, à bientôt.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Aujourd'hui, mercredi, on annonce une journée très ensoleillée, donc allez vérifier dans chacune des régions du Québec le taux de UV, hein, d'ultraviolet qu'il va y avoir aujourd'hui. Un petit rappel super important d'appliquer de la crème solaire, les dermatologues nous le rappellent tout le temps. Mais après, la question se pose, quelle crème solaire on devrait acheter? Et c'est là qu'on se tourne vers le magazine Protégez-vous, parce qu'ils font régulièrement des tests de produits pour nous informer quels sont les meilleurs choix pour nous en tant que consommateurs. Ben justement, il y a tout un dossier sur les crèmes solaires, la qualité, le prix, quels sont les meilleurs produits. On va parler de tout ça avec Mathilde Roy, les journalistes responsables des contenus santé au magazine Protégez-vous. Bonjour Madame Roy.
Bonjour Madame Durocher.
On peut dire que vous avez le sens de la propos parce que votre dossier de test qui est très, très, très complet sort juste au bon moment. Le plus surprenant quand on parcourt votre texte, c'est de se rendre compte que quand on rentre dans une pharmacie, des fois on se dit « Ah, je vais payer plus cher, je vais forcément avoir un produit de bien meilleure qualité. » C'est pas toujours le cas.
C'est pas toujours le cas. Non, effectivement. On a testé en fait 14 écrans solaires avec un indice de protection de 30 qu'on retrouve en pharmacie, en épicerie, dans les magasins grande surface aussi. Et on est allé vers un SPS de 30 parce que c'est ce qui constitue le minimum recommandé par les professionnels de la santé. Et effectivement, le constat qu'on fait, c'est que bon, pas besoin de payer une fortune là, pour avoir une bonne protection solaire. Il y a des produits de marque maison notamment, qui coûte environ 1 $ la dose de 35 millilitres. 35 millilitres, là, c'est la quantité pour couvrir un adulte. Donc, c'est la dose qu'on a utilisée pour établir le prix. Et ces produits-là, bon, protègent aussi bien que d'autres grandes marques qui, elles, se vendent beaucoup plus cher. Je vous donne l'exemple de la marque Biotherme ou encore Zora, qui reviennent en comparaison à 7 $ et même à plus de 12 $ la dose. Donc, de grands écarts de prix.
Mais moi, je suis complètement tombée en bas de ma chaise en lisant votre excellent dossier, Mathilde, parce que, tu sais, je veux dire, on peut, tu sais, mettons, moi, je vais chercher des tomates ou je vais chercher, moi, des biscuits avec des pépites de chocolat. Je suis consciente qu'il y a une différence de prix. Il peut y avoir une variation. Mais là, on parle de 1 à 12 $ pour une dose. Ça s'appelle un spectre de prix qui est quand même hallucinant. Est-ce que quand vous avez commencé le dossier, vous vous attendiez à ce qu'il y ait une telle différence de prix pour des produits qui, au final, sont aussi efficaces l'un que l'autre?
Pas nécessairement, effectivement. C'est toujours surprenant d'arriver, mais c'est drôle parce que à chaque fois qu'on réalise des tests, c'est très fréquent qu'on arrive à ces constats-là. D'où l'intérêt de les faire, puis d'où l'intérêt pour les consommateurs de pouvoir valider ces informations-là, parce que quand on est devant le présentoir là à la pharmacie, c'est impossible pour un consommateur, en regardant simplement l'étiquette d'une crème solaire, de savoir si elle va mieux les protéger ou non par rapport à une autre. Certaines mentions qu'on peut rechercher, évidemment, mais autrement, c'est vraiment en faisant le test qu'on fait pour voir justement quelle est la protection contre les rayons UVA, contre les rayons UVB. Et ces écarts de prix-là, on les a beaucoup constatés chez les produits québécois. Oui. Donc, dans notre test, il y a deux produits québécois, un de marque Attitude et l'autre de marque Zora, que je vous mentionnais tout à l'heure. Oui. Et donc, qui reviennent à 6,53 $ et 12,17 $ respectivement la dose. Ce sont des produits qui sont aussi avec des filtres minéraux à l'intérieur, donc des ingrédients qui sont différents de d'autres produits, qui vont avoir des ingrédients chimiques à l'intérieur. Ce sont aussi des produits, ce sont les seuls qui sont certifiés vegan. Donc, il y a aussi une part là-dedans, une certaine notion comme consommateur. Qu'est-ce qui est important pour vous? Peut-être que vous allez vouloir privilégier ces produits-là pour les ingrédients qu'ils utilisent, pour les certifications qu'ils possèdent et qui, pour vous, pourraient justifier cette différence de prix-là. Mais en termes de protection solaire comme telle, elles ne sont pas meilleures, là, effectivement.
Oui, mais c'est une nuance qui est importante parce qu'il y a en effet des gens pour qui, par exemple, le fait que ce soit vegan, donc qu'à aucun moment dans la composition du produit, il y a quelques produits animaux que ce soit, il y a des gens pour qui cette préoccupation-là est importante donc le fait que ce soit plus cher, ça ne les dérange pas. Ils sont prêts à payer plus cher pour qu'il y ait aucune cruauté envers les animaux ou aucun produit animal. En plus, le fait d'acheter québécois pour certaines personnes, la différence de prix, ils s'en foutent. Ils préfèrent payer plus cher puis se dire, ben moi j'aime mieux encourager une entreprise locale plutôt que d'alimenter une multinationale parce qu'on sait pas comment ils se comportent avec leur monde. C'est pas de diminuer, c'est juste d'offrir toute l'information aux gens pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée.
Exactement. Il y a cette notion-là d'achat local, effectivement. Il y a aussi les ingrédients qu'on retrouve à l'intérieur parce que on voit là, dans les dernières années, on a beaucoup parlé des ingrédients chimiques dans les crèmes solaires, comme l'oxybenzone, par exemple. Il y a plusieurs experts qui suspectent ces ingrédients chimiques-là d'être potentiellement dangereux pour la santé. Alors, pour certaines personnes, c'est tout à fait justifié d'aller vers des écrans physiques ou minéraux, donc qui sont des ingrédients qui vont réfléchir les rayons UV plutôt que les absorber et donc ils vont être prêts à payer plus cher pour ce type de produit-là. Est-ce que c'est meilleur et est-ce que c'est dangereux? C'est la question qu'on a posée à des dermatologues aussi et de leur côté, eux sont formels, c'est beaucoup plus risqué de s'exposer au soleil sans protection efficace que d'utiliser des crèmes solaires qui contiennent des ingrédients chimiques. Donc, il faut garder ça en tête. La plupart des produits que nous, on a testés possèdent des filtres chimiques ou une combinaison de filtres chimiques et physiques, et ce sont les plus efficaces. Cela dit, si par mesure de précaution, vous préférez aller vers des lotions minérales, pour votre enfant, par exemple, si vous avez une allergie à certains ingrédients chimiques, bien, vous pouvez tout à fait vous tourner vers les écrans physiques là, qui font bien le travail quand même.
Alors, je suis sûre qu'il y a des gens qui se posent la question, et mon rôle comme intervieweuse, c'est de vous poser la question que tout le monde se pose. Comment on fait pour tester des crèmes solaires à Protégez-vous? Est-ce que vous vous étendez sur le toit de la bâtisse en plein soleil le midi, puis vous mettez plein de crèmes, puis vous voyez quelle partie de votre bras brûle en premier? Comment on teste ça?
C'est une bonne question. En fait, on applique les produits sur des plaques de silice, et ensuite on mesure leur capacité à bloquer les rayons UVA et UVB à l'aide d'un spectromètre qui est un appareil de mesure. Donc, on peut vérifier donc la protection contre les rayons UV. On peut pas, par contre, contre-vérifier le SPF qui est annoncé sur les produits, parce que pour ça, comme vous le dites, il faudrait demander à des volontaires, soit de s'exposer à l'extérieur ou de s'exposer à un simulateur solaire et noter le temps que ça prend à leur peau à brûler sur les zones protégées et non protégées. Et évidemment, ben c'est pas une méthode à laquelle on se rallie. Donc, on y va davantage là, en laboratoire, vraiment, pour mesurer à l'aide d'un spectromètre la protection de ces écrans-là.
D'accord. Juste revenir, Mathilde, si vous le permettez, sur quelque chose que vous nous avez dit un petit peu plus tôt. Vous avez dit que quand on disait, c'est dans ce cas-ci, les produits moins chers sont très souvent aussi efficaces que les produits qui sont 12 fois plus chers. Vous nous dites que c'est quelque chose qui revient souvent dans les tests que vous faites à Protégez-vous. Donc, on se fait avoir quoi? Par le marketing, par l'emballage, par le nom de la compagnie? Pourquoi on est dupe comme consommateur? Pourquoi on paye 12 fois le prix d'un produit qui est aussi efficace qu'un produit qui coûte 12 fois moins cher?
Il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte effectivement qu'on paye plus cher pour un produit. C'est certain que là-dedans, il y a des pièges de marketing souvent. Dans le cas des crèmes solaires, là, vous pouvez retrouver quand même beaucoup d'allégations sur les produits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça l'est pas? On parlait de produits vegan tout à l'heure. Il y a des produits qui se disent vegan, mais qui n'ont pas nécessairement la certification qui vient avec. Donc, comme consommateur, c'est difficile de savoir exactement est-ce que c'est bel et bien vegan. Est-ce qu'il y a eu des tiers parties qui sont venus valider cette information-là? Donc, il y a une part de marketing. Parfois, ce sont des principes auxquels les consommateurs vont vouloir se rallier, mais qui ne rentrent pas nécessairement dans les critères de notre test. Tantôt, on parlait d'achat local. Encore une fois, les certifications qui peuvent être importantes pour certaines personnes. Mais quand on évalue l'efficacité d'un produit, qu'on se limite à ça, effectivement, c'est là où ça a l'air difficile parfois de justifier les écarts de prix, en fait.
Ouais. En même temps, c'est la raison pour laquelle aussi on se procure le Protégez-vous, pour laquelle on va sur votre site, c'est justement pour le mot le dit bien, le nom le dit bien, pour se protéger, pas juste se protéger du soleil, se protéger de dépenses inutiles. Si on apprend à mieux dépenser notre argent en cette période d'inflation où chaque cent compte. Ben, si on a le choix entre un produit qui coûte 12$ la dose pour se protéger du soleil puis un produit qui coûte 1$ la dose, ben ça prend pas de temps, là. Le choix, il est facile à faire. Donc, il y a énormément d'économies à faire en se renseignant.
Absolument. Il y a un aspect aussi qu'on voit beaucoup, de plus en plus dans nos tests, le greenwashing, hein, l'éco-blanchiment, par exemple.
Oui.
On voit que c'est une préoccupation de plus en plus importante pour les consommateurs, mais c'est encore une fois, est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui est réellement avantageux pour l'environnement ou est-ce qu'on tombe dans un marketing qui, au final, n'aide pas vraiment le consommateur? Donc, c'est le genre d'information que ça vaut la peine de creuser puis de se renseigner parce qu'effectivement, en ces temps d'inflation, on veut pas tomber dans ces pièges-là puis payer inutilement pour rien.
Ouais, tout à fait. Vous nous avez parlé de ces crèmes solaires. C'est drôle parce que celle qui coûte la moins chère, en tout cas parmi les moins chères, donc 1,11 $ la dose, c'est la compagnie Banana Boat. Et c'est très drôle parce que ça tout leur marketing, ça a l'air un peu. Ok, je vais faire attention à ce que je dis, mais je veux pas me faire poursuivre par la compagnie Banana Boat, mais je veux dire, quand je rentre, mettons, en pharmacie, ce serait la dernière marque que je penserais utiliser. J'ai vraiment la dernière. Et maintenant, après avoir lu votre texte, ben, ce serait la première marque que j'aurais tendance à utiliser. Honnêtement, moi, j'avais l'impression que c'était plus à la rigueur un truc de pour rigoler parce que ça sent bon, puis ça sent la noix de coco, puis tu comprends? C'est un côté très festif, voilà. Tu sais, on a l'impression que c'est de la crème solaire pour les gens qui sont sur le party. Ben, finalement, s'il est aussi efficace que l'autre, pourquoi pas?
Pourquoi pas, effectivement. Après, si l'odeur vous déplaît, si pour une raison quelconque, le produit ne vous convient pas, effectivement, c'est peut-être pas vers lui qu'il faut se tourner, mais en termes de protection solaire, pourquoi pas aller vers celui-là, tout à fait. Il y a aussi la notion peut-être qui est venue influencer votre réflexion par rapport à cette marque-là, c'est qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un rappel par Santé Canada de produits d'écran solaire Banana Boat. Ça fait quand même quelques années de ça. Il y avait des cas d'irritation cutanée qui avaient été rapportés, mais je veux rassurer quand même les gens là, qui n'utilisent plus Banana Boat depuis par traumatisme. Il faut savoir que Santé Canada a quand même refait des tests, a vérifié que les produits sont bel et bien corrects à utiliser, et c'est le cas depuis 2018, je crois, donc il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là.
Bon, un dernier point que je veux soulever avec vous, dans votre test, on comprend donc les marques maison très souvent, donc évidemment, sont beaucoup moins chères. Selon votre test, elles sont au moins aussi efficaces que les autres. Est-ce que cette idée-là de marque maison, c'est quelque chose qu'on peut appliquer pour différents produits? C'est-à-dire que moi, ça me frappe toujours, encore une fois, je vais à la pharmacie, je vais à l'épicerie, de voir juxtaposer, mettons que je vais chez Provigo, ben la marque maison de, je sais pas moi, de sauce tomate est à côté d'un produit, mettons comme Pastène, peu importe, et c'est exactement le même produit, mais beaucoup beaucoup moins cher pour la marque maison. On comprend qu'il y a tout un volume et tout ça. Est-ce que systématiquement les marques maison sont pour qualité égale moins chères que les autres produits?
C'est généralement moins cher, assurément, là, ça vaut la peine. Surtout, encore une fois, là, je pense que les gens en ce moment se tournent de plus en plus vers les marques maison parce qu'on voit qu'il y a une différence de prix qui est quand même notable pour un produit qui est tout à fait équivalent. On le voit dans l'alimentation, entre autres. Comment ces produits-là arrivent avec des prix beaucoup plus abordables? Ce sont des marques, on le dit, maison, donc privées qui appartiennent aux détaillants. Fait en sorte que, par exemple, Provigo n'a pas besoin de payer des frais de tablette. Donc, les autres fabricants vont devoir payer des frais pour être positionnés dans l'épicerie. C'est pas le cas pour la marque qui appartient aux détaillants. Donc, déjà, ils sont capables de faire des économies sur leurs produits pour permettre de vous les vendre moins cher. Après, pour répondre à votre question, est-ce que c'est systématiquement moins cher? La réponse, c'est non. Ça vaut quand même la peine de toujours faire la comparaison, en vérifier si c'est bel et bien un avantage. Parfois, il y a des grandes marques nationales qui sont en rabais puis qui reviennent moins cher que la marque maison.
D'accord.
Si vous voulez faire d'ailleurs le comparatif, là, vous pouvez très bien comparer le prix au poids sur l'étiquette là, des produits. On peut toujours faire cette vérification-là, s'assurer qu'on en a le plus pour notre argent, là.
Oui, ça c'est quelque chose que j'apprends à mon fils quand on va faire l'épicerie ensemble. Il y a toujours le réflexe, mettons, des biscuits, peu importe, là, de prendre un produit qu'il connaît. Puis là, mais je lui dis toujours, fais attention, on va regarder. Et là, on compare. En effet, sur la tablette, c'est écrit le prix de revient par millilitre ou par kilo ou par gramme, peu importe. Et parfois, c'est surprenant. Parce que, bon, mettons, t'as deux formats, t'en as un, c'est dans un 100 ml, puis l'autre, c'est un 300 ml, ça te tente pas toujours dans ta tête de faire le calcul, mais le calcul, il a été fait pour toi. Donc, je le rappelle tout le temps, là, sur la tablette, le prix est comparatif au millilitre ou au litre ou au gramme, et c'est une bonne façon de savoir lequel produit est vraiment le moins cher. Ben, écoutez, plein de bons conseils, protégez-vous cet été du soleil avec le magazine Protégez-vous. Mathilde Roy, ça a été très intéressant comme discussion, donc j'imagine que vous allez passer l'été bien protégé du soleil.
Oui, c'est sûr que moi, je suis complètement biaisée maintenant.
Alors, bon Banana Boat. Bon été, Banana Boat, Madame Roy. Merci beaucoup.
Au revoir.
Je rappelle que vous êtes journaliste responsable des contenus santé au magazine Protégez-vous. Donc, vraiment, un dossier extrêmement complet avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises concernant les crèmes solaires.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
Le 13 juin dernier, le ministère de la Santé du Québec a annoncé une entente avec la Fondation Jacques de Champlain pour la mise en œuvre d'une stratégie globale de déploiement de défibrillateurs automatisés. On a l'impression que c'est un exercice de prononciation. Le déploiement de défibrillateurs automatisés. Je ris, mais c'est un sujet qui est extrêmement sérieux puisque on calcule que chaque année, grâce aux défibrillateurs, on peut sauver 200 vies, donc dans des situations d'urgence. On va parler de tout ça avec François de Champlain, qui est président de la Fondation Jacques de Champlain et qui est lui-même urgentologue. Monsieur de Champlain, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Quand je dis que les défibrillateurs automatisés peuvent sauver des vies, donnez-nous une idée de l'impact que ça peut avoir, la différence que ça peut faire d'avoir accès rapidement à un défibrillateur versus l'absence de défibrillateur sur les lieux.
Ben, ça fait toute la différence. Vous savez, moi, je travaille depuis presque 20 ans comme urgentologue dans les hôpitaux, les centres hospitaliers, puis on a fait de grands, grands avancements dans la prise en charge des patients qui sont victimes d'un arrêt cardiaque ou d'un arrêt cardio-respiratoire. Et puis, malgré tout, les patients qui ont leur arrêt cardio-respiratoire à l'extérieur de l'hôpital, comme c'est le cas le plus souvent, si les premiers gestes n'ont pas été faits par le citoyen qui a été finalement un témoin de ce qui s'est passé, notre survie, malgré tous les avancements de la médecine, elle a plafonné. On n'arrive pas à augmenter cette survie-là pour les gens qui ont un arrêt cardio-respiratoire extra-hospitalier. Puis la raison est bien simple, c'est que c'est les 5 premières minutes qui comptent. Puis les 5 premières minutes, ça touche tout le monde au Québec. Ouais. Même ceux qui habitent à Montréal ou à Québec et puis qui savent que l'ambulance va arriver relativement vite. Puis souvent, même ces endroits-là, comme Montréal, par exemple, c'est les pompiers qui vont arriver même avant Urgence Santé la plupart du temps.
Les
6 minutes pour l'arrivée des pompiers, c'est trop long parce qu'à chaque minute qui passe, la survie, les chances de survie de cette personne-là diminuent d'environ 10% par minute. Alors, quand les pompiers arrivent en 6 minutes, ils arrivent à l'édifice, ils sont pas arrivés, ils n'ont pas encore sorti leur équipement, ils sont pas encore au chevet de la personne qui a besoin d'une assistance. Fait que c'est très rare, même dans les grands centres, qu'une défibrillation va arriver par les services préhospitaliers d'urgence en temps utile pour faire une réelle différence.
Et là, vous parlez des grands centres, mais c'est pire en dehors des grands centres, évidemment, parce que l'accessibilité à ces services-là d'urgence sont moins longs. Ben, c'est par définition, hein, plus on est en région éloignée, loin des grands centres, ben l'accès est pas le même. Donc, le temps de réponse sera pas de 6 minutes, il va être de, je sais pas moi, 7, 8, 9, 10, puis là, c'est trop tard.
Ah, ça va même être plus long que ça, Madame Durocher. Si je prends l'exemple, par exemple, de mon père qui a eu un arrêt cardio-respiratoire le 15 juillet 2009, il était dans la région de l'Estrie, puis ça a pris 27 minutes avant que l'ambulance arrive à son chevet. Donc, on n'a pas besoin d'aller très, très loin en région éloignée pour que les services ambulanciers arrivent beaucoup plus tard que ça. Puis la solution, c'est pas de mettre une ambulance à tous les coins de rue. Évidemment, ça serait pas un bon coût-bénéfice. C'est vraiment d'impliquer pour les conditions les plus urgentes, puis il n'y a pas de condition plus urgente qu'un arrêt cardiaque, c'est d'impliquer la réponse citoyenne. Puis ça, c'est peut-être le message le plus important de notre entrevue aujourd'hui, c'est que un citoyen qui ait ou non une formation au préalable peut utiliser un défibrillateur externe automatisé, parce que dans votre exercice de diction, comme vous dites tout à l'heure, il y a le mot externe, hein? C'est pour ça qu'on appelle ça DEA, donc c'est un défibrillateur externe automatisé, puis c'est souvent l'acronyme là qui va être utilisé et même visible sur les cabinets qui ont ces défibrillateurs-là à l'intérieur. Donc c'est important là pour les gens de savoir que l'appareil, dans le fond, va vous guider à travers les étapes. Il y a des commandes vocales qui vont être données. Puis même, en fait, il y a eu des études qui ont été publiées que même des enfants non entraînés à l'utilisation d'un défibrillateur sont presque aussi rapides que des paramédics bien entraînés pour
donner
un choc, absolument.
Donc, c'est un jeu d'enfant, c'est le cas de le dire. C'est vraiment un jeu d'enfant de l'utiliser.
En fait, oui, puis il faut le dire aussi que l'appareil ne pourra pas donner un choc si le choc n'est pas indiqué. C'est-à-dire que c'est l'appareil qui va détecter avec les électrodes s'il y a une
arythmie
qui nécessite un choc. Donc, même si on voulait, puis dans l'empressement, puis dans le stress de la situation, appuyer sur le bouton choc, l'appareil ne donnerait pas un choc si le choc n'est pas requis. Donc, c'est impossible de faire du tort, en fait, en utilisant un de ces appareils-là. Ça, c'est un message vraiment hyper important.
Oui, ben c'est extrêmement important que vous spécifiez tout ça, parce qu'en effet, on peut avoir cette appréhension-là de se dire « Oh mon Dieu, je vais faire plus de tort que de bien, ou je vais blesser la personne que je veux sauver. » Non, 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 c'est impossible. Vous nous l'avez raconté tout à l'heure, donc votre père qui est décédé depuis 2009, donc la fondation qui porte son nom est un organisme de bienfaisance, pardon, qui a pour mission l'augmentation du taux de survie des victimes d'un arrêt cardiaque en optimisant l'accès et l'utilisation des défibrillateurs externes automatisés. Bon, ce qu'on a annoncé le 13 juin, c'est un programme pour que le déploiement se fasse un petit peu partout au Québec. On parle de combien de défibrillateurs et à quel coût?
Ben, en fait, il y avait trois annonces dans cette annonce. Il y en avait deux qui étaient clairement des annonces plus qu'une promesse, c'est-à-dire il y a un partenariat avec nous pour vraiment établir le registre provincial qui est déjà en cours depuis 2015, mais vraiment le solidifier ce registre-là et aussi l'arrimer avec toutes les centrales de communication santé du 911. Ça, c'est un point très, très important, on pourra en reparler. L'autre aspect, c'est ce projet pilote avec les institutions financières et ceux qui sont dans le projet actuellement, c'est la Banque nationale et le mouvement des jardins. Et l'objectif, donc, c'est un déploiement progressif de 1000 défibrillateurs dans des régions cibles au Québec. Et donc, est-ce que 1000 défibrillateurs, c'est suffisant aux 5125 défibrillateurs qui sont déjà dans notre registre? La réponse, c'est non. Mais dans le cadre d'un projet pilote où on va essayer de cibler des endroits stratégiques sur le territoire, on pense qu'on peut vraiment faire une différence en accompagnant, en fait, les banques et le gouvernement du Québec, le ministère de Santé et Services sociaux, dans ce projet-là. Et pourquoi les banques ont été choisies? Les gens vont se demander. En fait, c'est simple. Un, ils sont sur l'ensemble du territoire, spécialement Desjardins et Banque nationale. Et aussi, il y a toujours une portion de ces institutions financières-là qui est ouverte 24 heures sur 24, soit la portion qui héberge le guichet automatique.
Ben donc, oui, j'avais pas pensé. Et ben, voilà.
Évidemment, un endroit de prédilection, parce que le problème actuellement, c'est qu'il y a des régions qui sont bien munies en défibrillateurs externes automatisés actuellement, mais après 5 heures, après les heures où les commerces ferment, souvent ces défibrillateurs-là ne sont plus accessibles pour la population. Donc, en choisissant un endroit avec des longues heures d'opération, ou mieux encore, dans ce cas-ci, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, ben, à ce moment-là, on peut faire une réelle différence.
Vous nous avez parlé tout à l'heure du décès de votre père, donc survenu en 2009, on est 13 ans plus tard. Ça doit vous faire quand même un pincement au cœur de se dire que, bon, peut-être dans la région où il est décédé, justement en Estrie, qu'il va y avoir prochainement un déploiement de défibrillateurs et qu'il y a des enfants qui ne seront pas orphelins comme vous l'avez été. Donc, de se dire que l'histoire réussit un peu à réparer une absence, ça doit mettre un baume sur votre cœur d'une certaine façon?
Absolument. Puis vous savez, mon père était lui-même médecin, il travaillait en cardiologie. C'était son premier symptôme cardiaque dans sa vie, hein, puis ça arrive dans 50% du temps que finalement le premier symptôme est une mort subite ou un arrêt cardiaque soudain. Et puis aujourd'hui, ben oui, c'est sûr que ça met un baume sur ça, cette annonce-là, ça s'en va dans cette direction-là. Je pense que le jour où j'aurai peut-être encore une émotion encore plus forte, c'est dans cette annonce-là, lorsque le ministre Dubé s'est dit empressé de procéder éventuellement à une loi sur l'accès public à la défibrillation, hein, comme c'est le cas dans d'autres provinces puis dans beaucoup de pays à travers le monde. Ça va peut-être boucler la boucle de donner un sens finalement à son décès, parce que dans son cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bon samaritain, comme on les appelle souvent, qui a commencé les manœuvres de compression, donc le fameux massage cardiaque. Mais ce qu'on a su par la suite, c'est qu'il y avait un défibrillateur qui était à 200 mètres de lui, mais personne ne savait qu'il y avait un défibrillateur là, parce qu'il n'y avait pas de registre, parce que le registre n'était pas arrimé avec les centrales de communication santé du 911. Donc, finalement, ce défibrillateur-là est resté dans une salle alors qu'il aurait pu être utilisé pour sauver sa vie. Donc, Aujourd'hui, oui, ça met une bombe, ça donne un sens, puis je suis sûr qu'en regardant du haut, il penserait la même chose.
Mais c'est hallucinant, cette histoire, et en effet, c'est pour ça que c'est important, justement, ce registre-là, pour que, mettons qu'on appelle au 911 en disant « j'ai quelqu'un, qu'est-ce que je fais? » On aurait pu dire à ce bon samaritain « ben, marche 200 mètres vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, il y a un défibrillateur, et dans ce cas-là, on sauve des vies. » Merci beaucoup pour le travail que vous faites, Monsieur de Champlain, en hommage aussi à votre papa, Jacques de Champlain, et ces mesures, donc, qui sont des bonnes nouvelles. On comprend que ça n'est pas suffisant, mais c'est un pas dans la bonne direction. Donc, on va tenir le ministre Dubé de près pour s'assurer que tout ça se fasse. Merci beaucoup, Monsieur de Champlain.
Merci de m'avoir reçu, Madame Durocher.
François de Champlain, donc, est président de la Fondation Jacques de Champlain. Il est urgentologue et il commentait donc cette annonce. 1000 défibrillateurs externes automatisés sur le territoire québécois. Un début, en tout cas. C'est comme ça, justement, que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, qui est un homme de cœur, qui est réalisateur, metteur en onde pour l'émission. Il y a également Charlotte Duquette, Frédéric Houle et Jean-Nicolas Gagné, Florence Lamoureux, qui ont participé à la recherche pour cette émission. Caroline Duplessis également, qui s'est jointe à nous à la toute dernière minute. Merci à elle et eux. Et merci à vous d'avoir été là et on se retrouve demain jeudi.
Cube Radio.